la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » sur Jet FM et je lire un livre pas tout neuf, mais je le lis ces temps-ci, un livre de Lionel Shriver qui s'intitule « Il faut qu'on parle de Kevin », livre publié aux États-Unis en 2003 et en France en 2006, traduit de l'anglais des États-Unis par Françoise Cartano, et je tiens dans les mains une édition poche chez J'ai lu. Ce livre, vous en avez peut-être entendu parler, il a fait l'objet d'une adaptation en film et il s'agit d'une fiction mais tellement empreinte de réalité que c'en est troublant. Lionel Shriver, qui est le nom d'une autrice américaine, dit par exemple, entre autres citations, « Je choisis un sujet qui provoque ma colère et j'en fais un livre. C'est donc de la colère et de l'effroi et du saisissement qu'est né ce livre. Le saisissement, c'est un jeune garçon qui décime quelques-uns de ses camarades et une professeure dans son collège ou dans son lycée. En l'occurrence, Kevin, qui a 14 ans et dont on comprend au fur et à mesure du texte que depuis toujours, il semble avoir des comportements un peu étranges, pourtant né dans une famille où rien ne laissait présager qu'il puisse être déviant et qu'à un moment, les choses puissent mal se passer. C'est tout l'enjeu de ce livre, de redécrypter par la voix de la mère de Kevin, redécrypter tout le parcours, toute la vie de ce Kevin jusqu'à ses 14-15 ans, moment où il est ensuite incarcéré dans une prison pour mineurs. Alors, le livre est construit sous forme de lettres, c'est un récit épistolaire. Les lettres sont toutes les mêmes, c'est-à-dire, il s'agit d'Eva, la mère de Kevin, qui écrit à Franklin, qui est le père de Kevin. On comprend très vite que les deux ne sont plus ensemble, probablement depuis le jour du drame qu'elle appelle le jeudi avec des majuscules. Et depuis, elle tente de comprendre sa vie, de reconstruire possiblement sa vie, qui passe par un regard étrange que les gens portent sur elle, voire hostile, et puis des visites à Kevin, et puis cette écriture de lettres dont on ne sait pas si elles sont réellement envoyées au destinataire, à Franklin, mais qui lui permettent, comme une catharsis, de raconter l'histoire. C'est un procédé littéraire comme un autre, et ça fonctionne plutôt très très bien, puisque au fur et à mesure du texte, la tension, la densité monte vraiment. C'est un livre qui fait quelques 600 pages, et j'en suis pour l'heure à la page 190, autant vous dire qu'il me reste encore beaucoup à comprendre. Et dans le récit, qui finalement, par flashback, se déroule de manière quasiment chronologique, eh bien, on suit d'abord les errances de Eva, ses doutes sur sa capacité et sa volonté, son envie tout simplement d'être mère, les injonctions de la société, le fait de finalement accepter de devenir mère par amour pour Franklin, qui lui semble passionné par les enfants. Et c'est tout ce maillage qu'elle tricote et qu'elle raconte. On est chez un personnage qui est né dans les années 50, qui donc devient mère relativement tardivement, à 37 ans, à l'orée des années 80. C'est aussi tout un contexte social et politique qui est décrit en filigrane et entre les lignes. Et donc, cette non-envie d'enfant, finalement, elle rend les armes, et sur bien d'autres aspects, cette femme va rendre les armes, va lâcher de sa liberté. On est aussi sur un livre qui déjà dit ce que la domination masculine, portée principalement par la société, mais aussi par son ex-compagnon Franklin, comment cette domination peut éteindre la liberté d'agir d'une femme. Et je vous propose de lire, là où j'en suis rendu, de continuer le récit. 27 décembre 2000. Cher Franklin, après m'avoir gentiment demandé auparavant si je m'en ressentais, ma mère a organisé une petite soirée entre filles chez elle et je crois qu'elle a regretté la date choisie. Il se trouve que hier, dans le Massachusetts, un homme très corpulent et très malheureux, un ingénieur, programmeur en informatique, répondant au nom de Michael McDermott, dont le pays entier connaît désormais la passion pour la science-fiction, exactement comme l'homme de la rue est désormais familier de la prédilection de notre fils pour les vêtements trop petits, a pénétré dans les locaux d'Edward Technology avec une carabine, un automatique et un pistolet, puis a abattu 7 de ses collègues. J'ai cru comprendre que Mr. McDermott était très en colère, et me voilà au fait des détails de sa situation financière, jusqu'à savoir que sa voiture vieille de 6 ans était menacée de saisie, parce que ses employeurs avaient retenu ses salaires pour un retard dans le paiement de ses impôts. Je n'ai pu m'empêcher de songer à tes parents, qui ne vivent pas très loin de Wakefield. Ton père a toujours tenu à ce que ses équipements haut de gamme gardent le sens de proportion, préoccupation qui s'étend sûrement au ratio de comportement comme la réparation des torts. Tes parents doivent imaginer que le monde des physiquement grotesques, qui ne respectent pas le matériau, se referme sur eux. Ayant depuis longtemps renoncé à faire péniblement semblant de rendre les invitations de Sonia Khachaturian pour encaisser le genre d'excuses variées qu'elle me fournissait déjà pour ne pas assister à ma première de ma représentation théâtrale scolaire, ces vieilles nanas avaient maintes fois eu l'occasion de goûter le lamb jaune de ma mère ainsi que les ilogues au sésame, et elles n'avaient plus trop envie de commenter la nourriture. En revanche, non sans appréhension, compte tenu de l'invité d'honneur de la soirée, elles mouraient toutes d'envie de parler de Michael McDermott. Une veuve fortunée signala avec tristesse qu'elle comprenait comment un jeune homme avait pu se sentir rejeté à cause d'un surnom comme Muco. Ma très acerbe tante Aline marmonna que la bagarre qu'elle-même avait avec le fisc, au moins perçue de 17 dollars datant de l'année 1991, avait enflé au fil des ans au point d'atteindre, grâce aux intérêts et aux pénalités, une somme supérieure à 1 300 $, pourrait lui faire bientôt prendre les armes. Mais toutes se tournèrent au bout du compte vers moi, la résidente experte en compréhension des esprits tordus. J'ai fini par être obligé de rappeler à ces femmes que ce type solitaire, trop gros et sans amis, et moi-même, ne nous étions jamais rencontrés. Ce qui a semblé faire passer aussitôt le message que personne dans ce pays ne se spécialisait plus dans le bon vieux meurtre d'antan, pas plus qu'un juriste n'étudiait la bonne vieille loi d'antan. On avait d'un côté le genre carton sur le lieu de travail et de l'autre massacre à l'école, un tout autre sujet de réflexion. Et j'ai perçu une gêne collective dans la pièce, comme si toutes elles avaient sonné au département des ventes alors qu'elles auraient dû demander le service clientèle. Et comme la Floride reste un sujet épineux à soulever en société sans avoir l'assurance que tout le monde est du même bord, quelqu'un a prudemment ramené la conversation sur ce lama jung. De toute façon, qui prétend que le crime ne paie pas? Je doute que les services du fisc voient jamais la couleur de l'argent de Muco, désormais, et le fraudeur de 42 ans risque bien de coûter infiniment plus cher à l'oncle Sam que ce que les impôts auraient jamais réussi à tirer de son salaire. C'est ma façon de considérer les choses aujourd'hui. Bien sûr, depuis que le prix de la justice a cessé d'être une abstraction dans ma vie personnelle pour devenir un implacable paquet de dollars et de cents. Et j'ai de fréquents flashbacks de ce procès au civil, alors que celui en assise est associé à un blanc pratiquement total. « Mrs. Khachaturian », commence la voix forte de Harvey pour son contre-interrogatoire. « L'accusation a beaucoup commenté le fait que vous dirigiez une entreprise à Manhattan en laissant votre fils à la garde d'étrangères, et que pour son 4e anniversaire, vous vous trouviez en Afrique. J'ignorais à l'époque qu'il était illégal d'avoir une vie. » Mais en rentrant de ce voyage, vous avez embauché quelqu'un pour superviser au jour le jour le travail de votre société afin d'être une meilleure mère pour votre enfant. C'est exact. Ne vous êtes-vous pas alors consacré entièrement à lui? En fait, à part quelques babysitting occasionnels, n'avez-vous pas supprimé toute aide étrangère? Franchement, nous avons renoncé à prendre une nounou parce que nous ne trouvions personne susceptible de supporter Kevin plus de quelques semaines. Harvey faisait la tête. Sa cliente était autodestructrice. Dans mon esprit, cette qualité faisait de moi un cas, mais la lassitude lisible sur le visage de mon avocat laissait penser que je rentrais dans une catégorie connue. Vous étiez néanmoins consciente qu'il avait besoin de continuité, et c'est pour cette raison que vous avez mis un terme à ce manège permanent des jeunes filles. Vous avez cessé de faire du 9h-17h au bureau. Oui. Mrs. Khachaturian, vous adoriez votre travail, exact. Vous en tiriez une grande satisfaction personnelle. Cette décision a donc représenté un sacrifice considérable, et tout cela pour le bien de votre enfant. Le sacrifice a été énorme, ai-je dit, et aussi inutile. Plus de questions, votre honneur. Nous avions répété énorme, point. Il m'a fusillé du regard. Étais-je déjà, en 1987, en train de prévoir ma défense ? Ma démission réversible de AWAP avait beau se situer dans la surcompensation grandiose, elle était aussi esthétique. Je trouvais que ça faisait bien. Je ne m'étais jamais perçu comme une personne se souciant de l'opinion des autres, mais ceux qui abritent des secrets coupables sont inévitablement dévorés par les apparences. C'est ainsi que, lorsque vous êtes venus ensemble me chercher à Kennedy, je me suis penché pour embrasser d'abord Kevin. Il était encore dans sa phase déconcertante, poupée de chiffon, tout mou. Il ne m'a pas rendu mes baisers. Mais la force et la durée de mes propres effusions exposaient ma conversion de Harare, une nouvelle naissance. « Tu m'as beaucoup manqué, ai-je dit. Maman a deux surprises pour toi, chérie. Je t'ai rapporté un cadeau. Mais je te fais aussi la promesse que maman ne restera plus jamais, jamais partie aussi longtemps. » Kevin s'est affaissé davantage. Je me suis relevé et j'ai lissé ses mèches de cheveux rebelles, gênés. Je jouais mon rôle, mais des spectateurs auraient pu déduire de la lassitude anormale de mon fils que je le gardais menotté à la chaudière dans la cave. Je t'ai embrassé. Contrairement à l'idée que j'avais que les enfants aiment voir leurs parents se témoigner de la tendresse, Kevin a trépigné et meuglé en te tirant par la main. Je m'étais peut-être trompé. Je n'ai jamais vu ma mère embrasser mon père. Ce que je regrette. Tu as abrégé le baiser et marmonné « ça risque de prendre du temps, Eva ». Pour les enfants de cet âge, 3 mois, c'est une éternité. Ils deviennent fous. Ils pensent que jamais tu ne reviendras. J'ai failli répliquer que Kevin semblait surtout dépité que je sois revenu, justement. Mais je me suis retenu. L'un de nos premiers sacrifices à la vie de famille, c'est la légèreté de cœur. « C'est quoi ce truc, Burke ?» ai-je demandé, tandis que Kevin continuait de tirer sur ton bras et de meugler. « Des doodles au fromage, as-tu répondu, ravi. La dernière tocade. »« D'accord, garnement, on va te chercher un paquet de trucs chimiques qui brillent dans le noir. » Et tu l'as suivi clopin-clopant, en me laissant sur place avec mes bagages à faire rouler. Dans le pick-up, j'ai été obligé de décoller du siège passager plusieurs doodles collant à divers stades de déliquescence. L'enthousiasme gastronomique de Kevin n'allait pas jusqu'à manger les biscuits salés. Il les suçait en aspirant la couche phosphorescente, ce pourquoi il devait les imprégner de suffisamment de salive pour les faire fondre. Les enfants aiment en général le sucré, as-tu expliqué joyeusement. Eh bien, le nôtre aime le salé. Apparemment, un toqué de sodium valait mieux qu'un bec sucré, à tout point de vue. Les Japonais pensent que ce sont deux principes opposés, ai-je dit, en évacuant par la vitre ma visqueuse récolte. Malgré l'existence d'une petite banquette arrière, le siège d'enfant de Kevin était fixé entre nous deux et je regrettais de ne plus pouvoir, comme j'en avais l'habitude, poser une main sur ta cuisse. « Maman a pété », a dit Kevin, « ça sent pas bon ». « Ce n'est pas une chose que l'on est censé clamer sur les toits, Kevin », ai-je répliqué sèchement. J'avais mangé cette garniture de purée de haricots à la banane à Norfolk juste avant d'attraper l'avion. « Si on s'arrêtait aux Juniors, as-tu proposé ? C'est sur le chemin et les enfants y sont les bienvenus ». Cela ne te ressemblait pas d'oublier que j'avais été en transit pendant 15 heures depuis Nairobi, que je risquais par conséquent d'être un peu fatigué, gonflé par le vol, gavé de biscuits et de cheddar sous cellophane, et que j'avais envie de tout sauf d'un boui-boui bruyant, cucu, à la lumière violente, dont l'unique point positif était le cheesecake. J'avais secrètement espéré que tu aurais trouvé une babysitter et que tu serais venu seul m'accueillir à l'aéroport, avant de m'emmener prendre tranquillement un verre dans un endroit où je pourrais, en toute discrétion, te révéler que j'avais ouvert la page maternelle. En d'autres termes, j'avais envie d'écarter Kevin pour mieux te confier tout le temps que je comptais passer désormais avec lui. « Parfait », ai-je articulé faiblement. « Kevin, ou tu manges tes trucs au fromage, ou je les retire. Ne les écrase pas partout dans la voiture. » « Les enfants font des saletés, Eva, as-tu dit gaiement. Relax. » Kevin m'a gratifié d'un chef-d'œuvre de sourire orange avant de m'écraser un doodle sur les cuisses. Au restaurant, Kevin a dédaigné la chaise haute prévue pour les petits. La vocation parentale transformant du jour au lendemain celui qui succombe en insupportable rabat-joie, j'ai sermonné. « Très bien, Kevin, mais souviens-toi, quand on veut manger assis comme les adultes, on doit se conduire en adulte. » Nya 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 sur un rythme moqueur. Il avait capté ma cadence sérieuse et mes intonations moralisatrices avec une exactitude tellement parfaite qu'il était peut-être promis à un avenir de chanteur de bar. Ça suffit, Kevin. J'ai tenté d'affecter la décontraction. Gna 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 gna. Je me suis tourné vers toi. Ce petit jeu dure depuis combien de temps? Gna 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 gna. Un mois? C'est une phase, ça va lui passer. Gna 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 gna. Je suis impatiente, ai-je dit, de plus en plus réticente à laisser quoi que ce soit sortir de ma bouche pour me l'entendre resservir en gna 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 de perroquet. Tu voulais commander des beignets d'oignons pour Kevin et j'ai objecté qu'il avait dû se gaver de saloperies salées tout l'après-midi. Écoute, as-tu répondu, comme toi, je suis très content quand il mange quelque chose. Peut-être est-il en manque de certains éléments, comme l'iode par exemple. Il faut faire confiance à la nature. Traduction, tu aimes ces cochonneries de trucs apéritifs, toi aussi, et vous vous êtes ligués sur la junk food. Commande-lui un steak, il a besoin de protéines. Lorsque notre serveuse a relu ta commande, Kevin a fait gna 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 d'un bout à l'autre. Apparemment, gna 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 signifie une salade verte avec la vinaigrette à part. Il est mignon, ce petit garçon, a-t-elle dit avec un coup d'œil désespéré en direction de la pendule. Quand sa viande est arrivée, Kevin s'est emparé de la grande salière à facettes avec un bouchon à gros trous et il a recouvert son steak de sel jusqu'à lui donner l'allure du Kilimandjaro après une chute de neige. Fâché, j'ai voulu gratter la couche blanche avec un couteau, mais tu as retenu mon bras. Tu ne peux donc jamais laisser ce petit bonhomme s'amuser, ou nous amuser, as-tu articulé calmement. Le sel est aussi une phase qui va lui passer, et plus tard, quand il sera plus grand, nous lui raconterons, et il aura l'impression qu'il avait déjà beaucoup d'originalité, même quand il était petit. C'est la vie, et la vie est belle. Je doute que Kevin peine un jour à trouver des manières de se distinguer. Le sens de ma mission maternelle qui s'était abattu sur moi au cours de la quinzaine écoulée s'estompait à vive allure, mais je m'étais fait une promesse. J'en avais fait une à Kevin à l'arrivée, et à toi, une autre encore implicite. J'ai inspiré un grand coup. Franklin, j'ai pris une décision capitale pendant que j'étais parti. Avec un sens de la coordination classique quand on mange dehors, notre serveuse est arrivée avec ma salade et ton cheesecake. Ses pieds crissaient sur le lino. Kevin avait vidé la salière sur le sol. La dame a du caca sur la figure. Kevin pointait du doigt une tache de naissance sur la joue gauche de notre serveuse, 8 cm de large et grossièrement la forme de l'Angola. Elle avait badigeonné la grosse marque brune d'anticerne beige, mais presque tout le maquillage était effacé. Comme beaucoup de camouflage, le remède était pire que le mal. Leçon qu'il me faudrait enregistrer pour mon propre compte. Avant que je puisse l'interrompre, Kevin lui a demandé directement « Pourquoi tu te débarbouilles pas? Tu as plein de caca sur la joue. » Je me suis confondu en excuses devant la gamine qui ne devait guère avoir plus de 18 ans et avait manifestement passé toute sa vie à souffrir de ce défaut. Elle avait réussi à faire un pauvre sourire et promis d'apporter ma vinaigrette. Je me suis retourné vers mon fils. « Tu savais que cette tâche n'était pas du caca, n'est-ce pas ?»« Gna 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 » Kevin était en attente sur la banquette, les paupières mi-closes et l'œil brillant. Il a placé ses mains sur la table et le nez contre le bord, mais je devinais à l'éclat révélateur du regard que sous la table se cachait un grand sourire, large, les lèvres serrées et étrangement forcées. « Kevin, tu sais que tu lui as fait de la peine, n'est-ce pas ?» ai-je dit. « Est-ce que tu aimerais que je te dise que tu as la joue pleine de caca ?»« Eva, les enfants ne comprennent pas que les adultes puissent être susceptibles à propos de leur apparence physique. » es-tu intervenu. « Tu es sûr qu'ils ne comprennent pas ? C'est une chose que tu as lue quelque part ?»« Pourrions-nous ne pas gâcher notre première soirée ensemble ?» as-tu imploré. « Pourquoi faut-il toujours que tu le vois tout en noir ?»« D'où sors-tu cela ? » ai-je demandé, en affichant une grande perplexité. « On dirait plutôt que toi, tu me vois tout en noir. » Le coup de la candeur mystifiée demeurerait mon échappatoire pendant 3 ans. Mais avec tout cela, l'atmosphère avait viré pour mon effet d'annonce. Alors j'ai fait ma déclaration avec le minimum de cérémonie. Je crains que mes intentions n'aient été reçues comme un défi. « Tiens, avale et digère ça si tu crois que je suis une mère indigne. Wow, »« Waouh, as-tu fait ? Tu es sûr ? C'est un sacré pas ?» Je me suis rappelé ce que tu as dit à propos de Kevin et de l'apprentissage du langage, que peut-être il avait mis tant de temps parce qu'il voulait le faire correctement. Eh bien, moi aussi, je suis perfectionniste. Or, je n'assume correctement ni AWAP ni mon rôle de mère. Au travail, je multiplie les jours d'absence sans prévenir et les publications prennent du retard sur le programme. Dans le même temps, Kevin se réveille sans savoir qui va s'occuper de lui pendant la journée, sa mère ou une mercenaire désespérée qui prendra la poudre d'escampette dès la fin de la semaine. Je pense essentiellement à la période avant la scolarisation de Kevin. Et en plus, la chose pourrait être bénéfique aussi à Whip&P. Amener de nouvelles perspectives, des idées neuves. Ma voix domine peut-être un peu trop dans la série. Toi, t'es-tu exclamé, horrifié, dominatrice ? Gna, 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 gna. Kevin, ça suffit, ai-je dit, tu arrêtes, laisse maman et papa. Gna, 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 gna. Je parle sérieusement, Kevin, tu cesses les gna gna, ou nous partons. Je ne sais pas pourquoi je l'ai menacé de partir sans que rien n'indique son envie de rester. J'ai ainsi goûté pour la première fois ce qui allait devenir un dilemme chronique. Comment punir un gamin opposant une indifférence quasiment zen à tout ce qu'on pouvait lui refuser ? Eva, tu ne fais qu'aggraver les choses. Quelle solution préconises-tu pour qu'il la boucle ? Je l'ai giflé. Pas très fort. Il a eu l'air ravi. Où as-tu appris cette méthode ? As-tu interrogé sombrement. Et il s'agissait bien d'une méthode. Ta question a été la première phrase du repas à ne pas être traduite en gna gna. Franklin, il faisait de plus en plus de bruit. Les gens commençaient à nous regarder. Kevin s'est alors mis à pleurnicher. Les larmes arrivaient un peu tard, selon moi. Je n'ai pas été ému. Je l'ai laissé pleurer. On nous regarde parce que tu l'as frappé, as-tu dit sotto voce, soulevant ton fils pour le câliner sur tes genoux, tandis que les petits sanglots enflaient et devenaient hurlements. Ça ne se fait plus, Eva. Pas ici, en tout cas. Je crois qu'ils ont voté une loi. Ou en tout cas, ils auraient dû. C'est considéré comme une agression. Je gifle mon propre fils et je me fais arrêter. Il existe un consensus pour dire que la violence n'est pas un argument de persuasion. Ce qui est incontestablement vrai. Je ne veux pas que tu recommences, Eva, plus jamais. En clair, je mets une gifle à Kevin, tu m'en mets une. Compris. Peut-on sortir d'ici, je te prie ? Ai-je proposé avec froideur. Kevin avait baissé de régime et en était à des restes de sanglots, mais il pouvait facilement tenir le décrescendo encore 10 bonnes minutes. Un vrai chant d'amour, bon sang. Bravo l'artiste. Tu as fait signe pour avoir l'addition. Ce n'est pas franchement le contexte dans lequel je voulais annoncer ma nouvelle à moi, as-tu dit en mouchant le nez de Kevin dans une serviette. Parce que j'ai aussi une vraie nouvelle, je nous ai acheté une maison. J'ai mis un moment à réagir. Tu nous as acheté une maison ? Tu n'as pas trouvé une maison à me faire visiter ? L'affaire est conclue ? Si je ne me mouillais pas, elle allait me filer sous le nez. Par ailleurs, tu n'étais pas intéressée. Je croyais que tu serais contente, heureuse que ce soit chose faite. Parfait. Je suis aussi contente qu'on peut l'être de quelque chose dont on ne voulait pas dès le début. Nous y voilà, hein. Tu ne peux pas te rallier à un projet qui ne vient pas de toi. Si les Suburb AWAP n'est pas ton œuvre personnelle et exclusive, rien ne va plus. Bonne chance à toi pour la délégation de pouvoir au bureau. Ça n'était pas très naturel. Tu as laissé un pourboire généreux. Les 3 $, me suis-je dit, c'était pour maquiller le visage plein de caca. Tes gestes étaient mécaniques, je voyais que tu étais blessé, tu avais cherché loin et beaucoup pour trouver cette maison. Tu étais impatient d'annoncer ta grande nouvelle et la propriété avait dû te séduire, sinon tu ne l'aurais pas achetée. Excuse-moi, ai-je chuchoté en t'accompagnant vers la sortie, tandis que les autres clients louchaient discrètement dans notre direction. Je suis simplement fatigué. En fait, je suis très contente, j'ai hâte de la voir. J'ai pensé... Tout le monde dans ce restaurant est content qu'on s'en aille. J'ai pensé, je suis devenu une de ces personnes qui me faisaient pitié. J'ai pensé, et qui me font toujours pitié, d'ailleurs. Plus que jamais. Eva. C'était l'une des lettres qui constituent le livre « Il faut qu'on parle de Kevin » de Lionel Shriver, publié en 2003 aux États-Unis, en 2006 en français. C'est ici une édition J'ai lu, dont je vous livrerai un extrait qui se situe à peu près au tiers de ce livre qui compte 600 pages. Évidemment, en lisant ce livre, je ne suis pas sans penser à notamment le film Elephant de Gus Van Sant, à peu près un récit similaire d'une descente aux enfers d'un adolescent moyen. Écoutons donc la lettre à Élise.